La fugue bouscule chaque année la vie de centaines d'adolescentes et d'adolescents au Québec. Désir de changement ou expression d'un mal-être, elle laisse les adultes entourant ces jeunes aux prises avec un sentiment d'impuissance, de solitude et parfois de honte. On l'associe instinctivement à des risques, mais elle est pourtant loin de se résumer au danger. Ce balado met en lumière ce qui pousse des jeunes à partir et ce que ça fait vivre à leur entourage. Il propose des réflexions pour mieux comprendre et intervenir. Dans ce dernier épisode, Jonathan Paradis et Anne Charpentier de l'organisme En Marge 12-17, Vicky Étier, éducatrice en centre de réadaptation, ainsi que Chantal Lisotte et Jacinthe Dubien de l'escouade Fugue Montérégie, abordent comment un filet de sécurité tissé collectivement peut faire toute la différence.
Les jeunes qu'on rencontre, on a un peu l'habitude de les voir un peu comme des problèmes à résoudre et des solutions à trouver et tout ça. Par contre, c'est important de se rappeler effectivement qu'ils ont des forces. Quand on leur offre l'opportunité et l'espace, ils sont créatifs, ils sont intelligents. Quand ils trouvent quelque chose dans lequel ils ont envie de s'investir, ils peuvent être très, très motivés. Et puis surtout, je pense, quand ils ressentent en fait qu'ils ont du pouvoir, qu'ils peuvent prendre des décisions puis influencer un peu leur vie et leur situation, ils sont capables de s'investir puis de vraiment avoir de bonnes idées pour trouver des solutions à leurs problèmes ou des manières alternatives, en fait, de répondre à leurs besoins.
La fugue peut être une expérience positive. C'est ce que les gens trouvent particulier quand on aborde cet aspect-là, parce qu'il n'y a pas juste des dangers à la fugue, il y a des expériences positives. Certains se débrouillent puis voient qu'ils ont des capacités qu'ils pensaient pas avoir ensemble, qu'ils finissent par se débrouiller puis disent « OK, je suis capable de faire ça, je suis capable de travailler, je suis capable de demander de l'aide ». Il y a des jeunes qui découvrent d'autres services dans la communauté et qui leur permettent de voir que d'un côté, OK, si jamais je fugue ou quand je vais être plus vieux, voici ce que je peux avoir accès. Ils découvrent qu'il y a d'autres services. Ça peut amener une réflexion chez les jeunes par rapport à je vais retourner soit à mon milieu familial ou je vais retourner en centre. Et des fois, ben en allant dans les organismes communautaires, ils discutent avec les intervenants qui les aident à peut-être, garde, comment on peut régler ta situation différente? On va tenter de négocier et de revoir qu'est-ce qui est possible. Et là, on discute. Puis comme le jeune est peut-être plus déposé parce qu'il est ailleurs, ben ça lui permet de peut-être reprendre le contact avec le centre puis de dire, bon, ben là, je vais regarder qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient peut-être à d'autres choses, qu'est-ce que je peux négocier, c'est quoi mon vrai besoin, qu'est-ce qui s'est passé, puis de revenir, puis de prendre d'autres ententes, puis de s'engager à quelque chose d'autre, se mobiliser vers quelque chose d'autre.
Nous sommes présentement à l'antichambre 12-17, qui est située à Salaberry de Valleyfield. On vient d'entrer dans la maison. Comme vous pouvez voir, c'est une pièce ouverte. La cuisine et le salon sont ouverts. Puis au mur, on retrouve des œuvres que les jeunes ont faites. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes se sentent chez eux. Fait qu'ils ont accès, que ce soit au frigo, que ce soit à la cuisine. Ils s'impliquent dans la préparation des repas. L'idée, c'est vraiment de développer des aptitudes aussi au niveau de l'autonomie, au niveau des relations avec les autres. Donc, c'est un milieu qui leur permet vraiment de se développer. Puis, c'est pour nous, c'est tellement facile de mettre en lumière leurs forces, justement, parce qu'on vit dans leur milieu. Nous, on travaille ici. En fait, on travaille dans leur milieu, puis eux vivent ici. Donc, on les voit réaliser des petites choses de la vie, puis c'est ce qu'on apprécie le plus, c'est de pouvoir mettre de la lumière sur leurs forces, puis les mettre en valeur à travers des choses du quotidien.
Les ressources communautaires sont là pour valoriser les jeunes et les accompagner vers des prises de décisions responsables, tout en proposant une alternative à la rue, en région comme à Montréal.
Donc, En Marge, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes mineurs 12-17 ans. C'est ici qu'on accueille les jeunes en dépannage d'urgence, c'est-à-dire que c'est pas les jeunes qui vivent ici, c'est vraiment les jeunes qui sont en fugue, qui viennent prendre une nuit jusqu'à 3 nuits par semaine, où un contact va être fait après chaque nuit de dodo. Donc voilà, c'est pour ça que c'est tout petit. parce que, en fait, l'objectif, c'est pas qu'ils soient super confortables. C'est-à-dire que c'est pour une nuit. Donc, des fois, tu vas penser peut-être à d'autres options aussi, ou même le retour au centre jeunesse peut arriver plus rapidement. On peut venir dans la cuisine. Donc, j'ai envie de dire que c'est tout se passe ici. La préparation des repas. Là, on n'a pas de casse-tête, mais habituellement, il y a toujours un casse-tête qui est fait ici par les intervenants puis les jeunes quand ils viennent en visite, viennent prendre une petite collation, viennent prendre un café, un verre de jus. Donc, c'est pas mal ici que ça se passe, dans cette belle grande cuisine. Nous aussi, on va renforcer le désir de ce jeune ou de cette jeune-là de se mettre en sécurité. Donc, d'avoir utilisé l'hébergement pour dire, mais ça, c'est une force qu'il a ou qu'elle a d'être venue se mettre en sécurité pendant qu'elle était ou qu'il était en fugue. Ce qu'on essaie de créer ici, c'est vraiment que ce soit un endroit pour venir se déposer, pour être plus tranquille. Dans la pièce, il y a aussi une guitare, un piano. Beaucoup de jeunes, en fait, viennent jouer du piano. C'est quand même très surprenant, mais plusieurs jeunes ont ce don incroyable de la musique et nous font profiter justement de leur talent. Donc, c'est un piano qui nous avait été offert en don par une maman.
Les jeunes peuvent rester à l'antichambre sans l'autorisation du parent un maximum de 72 heures. C'est sûr que nous, le plus rapidement possible, on souhaite établir un contact avec le parent pour le rassurer. Une fois qu'on est en contact avec le parent et que la fugue est levée, c'est-à-dire que comme les autorités et les parents savent où le jeune se trouve, à ce moment-là, c'est possible de commencer un séjour à l'antichambre si tout le monde est d'accord. Donc, après, il peut rester selon les besoins de la situation. Il peut être hébergé temporairement le temps de faire descendre un peu la pression à la maison et tout. Puis on soutient les parents là, tout au long de cet hébergement.
Quand on est éducateur, la chance qu'on a, c'est d'être une équipe d'intervenants. Donc, on peut parler avec d'autres intervenants. Quand on est parent, des fois, on vit de la honte, on se sent mal, on se sent coupable, on n'a pas nécessairement plein de gens à qui parler. Donc, ben appelez-nous, puis on va en jaser, puis on va discuter. Mais c'est ça, être parent, des fois, on a l'impression qu'on est isolé. Des fois, on l'est, mais il existe des ressources pour nous soutenir puis nous aider. Utilisez-les, c'est important, parce qu'il ne faut pas rester tout seul avec ça. On demande aux enfants de demander de l'aide, de savoir comment demander de l'aide, de ne pas rester près avec ça. Je pense que c'est la même chose pour les parents.
Emma, 22 ans, nous a raconté le bouleversement vécu par sa famille alors que son frère disparaissait régulièrement. Cet épisode familial tumultueux remonte à une dizaine d'années. Aujourd'hui encore, pour la famille d'Emma, ça demeure un sujet à la fois sensible et tabou. Au point que l'on se confie hors micro uniquement. Pour ce balado, nous avons approché une dizaine de familles porteuses d'histoires comme celle d'Emma ou de Théo et Karine. Elles sont unanimes. Aborder l'impact de la fugue sur l'ensemble de la famille est nécessaire. Pourtant, la majorité d'entre elles n'est pas prête à revenir sur ce passé douloureux. Ce que Karine, Théo, mais aussi Emma nous apprennent, c'est que se confier et partager à d'autres leur désarroi est essentiel à la résolution.
Prendre soin de sa famille pendant qu'on a un des enfants en fugue, c'est plutôt compliqué, mais c'est de ne pas mettre toute son énergie sur le seul enfant qui n'est pas là et de négliger les autres. Ça va permettre en fait de mettre les meilleures conditions possibles pour qu'au retour du jeune, en fait, tout le monde soit heureux et en mesure d'accueillir le jeune qui revient dans la famille. Parce que là, on doit trouver des solutions, mais les mettre en place aussi, puis s'assurer que le jeune se sente bien dans son milieu de vie. Quand on veut garder le lien avec son enfant pendant sa fugue, l'important, c'est de vraiment pas être confrontant lorsqu'on a des contacts. Donc, toujours privilégié de parler au jeu, de nommer les émotions qu'on vit, de nommer qu'on s'inquiète des choses comme ça, mais ne pas faire des choses, ne pas dire des choses qui pourraient être perçues comme des reproches, par exemple. Tu m'empêches de dormir la nuit versus je m'inquiète pour toi. Le je m'inquiète pour toi fonctionne beaucoup mieux et offre un espace un peu plus bienveillant aux jeunes. Une manière d'accompagner son enfant pendant toute la durée de sa fugue, c'est par exemple de proposer des rendez-vous, que ce soit téléphonique, texto ou en personne, dans un endroit neutre, où on s'assure en fait de sa sécurité à des intervalles réguliers.
Et moi, je m'appelle Karine et je suis la maman de Théo. Là où mes inquiétudes étaient vraiment aussi alimentées et challengées, c'était que dans son grand désir d'autonomie puis de liberté, ça voulait aussi dire qu'il allait pas revenir vers sa mère en cas de besoin. Ça me faisait peur. Alors je me disais, la journée où il va vraiment être en danger et où il va me répondre par son fameux « t'inquiète », ce mot-là, je l'ai entendu 160 milliards de fois, j'étais plus capable, il me répondait toujours « t'inquiète », comme pour me faire taire, comme pour pas que j'aille plus loin, comme pour me rassurer. Je me disais, derrière ce « t'inquiète-là », il y a très certainement un appel à l'aide, puis je suis pas capable d'y répondre. Et je sais pas comment y répondre. On communiquait beaucoup par téléphone, par texto, en fait, heureusement. Mais on va pas très loin dans un texto avec un adolescent de 14-15 ans qui répond constamment « t'inquiète ». Fait que oui, je gardais une certaine forme de communication, même si je savais que 80% de ce qu'il me disait risquait de pas être la réalité. Parce que je me disais, la journée où je perds ce lien-là avec lui, je vais me mettre à faire tous les parcs de la Rive-Sud et de Montréal à la recherche de mon gars qui est intoxiqué et itinérant. J'avais constamment cette image-là en tête. J'avais très peur, en fait. Fait que donc, oui, j'étais ouverte à recevoir et à entrer en contact avec mon gars le dimanche matin à 11h, peu importe l'état dans lequel il était. Fait que des fois, il était en lendemain de brosse solide. D'autres fois, il était intoxiqué, toujours très, très, très fatigué parce que 11h, c'est tôt quand t'as 15 ans puis que tu vis de nuit. Mais on réussissait à travers ces courtes rencontres-là qui pouvaient durer de 10 minutes à une heure, disons. On réussissait à se réapprivoiser l'un l'autre en dehors d'un environnement qui lui plaisait pas, qui était la banlieue, qui était ma maison, en dehors aussi de la relation amoureuse que j'avais à l'époque, en dehors de la vie de famille recomposée que je lui avais offert. C'est des moments où on a réussi à rétablir une certaine forme de communication qui n'était pas dans le reproche.
Du côté des hébergements d'urgence, on peut toujours en fait appeler pour laisser un message à son jeune s'il fréquente nos ressources. Autant les parents en fait que les intervenants, par exemple, au centre jeunesse. Donc, de laisser un message à chaque jour ou pratiquement chaque jour pour demander des nouvelles, puis dire comment que ça va, des choses comme ça, ça fait toute la différence pour les jeunes. Puis souvent, dans ce que les jeunes font pendant leur fugue et tout ça, bon, ils montrent pas beaucoup d'intérêt quand on leur donne le petit papier avec le petit message, mais c'est le jour où il y a pas leur petit papier que l'on voit à quel point c'est important pour eux autres d'avoir ces petits mots-là de la part de leurs intervenants, en fait, des adultes significatifs dans leur vie.
Mais le but, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que tu fugues. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour répondre à ce besoin-là? Parce qu'ils en vivent une liberté. Ils ont l'impression qu'ils ont un certain pouvoir sur leur vie, ce qu'ils n'ont pas nécessairement quand ils sont en centre. Faut les amener à voir qu'ils en ont aussi en centre. Faut juste qu'ils changent un peu leur façon de penser. Faut ramener le pouvoir d'agir. Tu l'as à l'extérieur, comment on peut le transposer à l'intérieur? Puis comment on peut travailler ensemble, main dans la main? Le placement est là, il y a une ordonnance d'un juge. Comment on fait pour changer ça? Ben souvent, ils peuvent, mais ils savent pas comment. Comment tu peux avoir du pouvoir sur ta vie? Comment tu peux, toi, saisir le tribunal puis dire, ben je veux autre chose? C'est tout ça. On a encore du travail à faire, mais je crois qu'il y a une grande amélioration dans l'accueil bienveillant qui se fait auprès des jeunes. Les intervenants adhèrent à cette philosophie et ça permet aussi aux jeunes de voir, ben je reviens, je t'accueille. Fait que
C'est pas tous qui ont le désir de repartir après. Puis même s'il y en a d'autres qui sont plus dans la chronicité, dans la récurrence, ben ils savent que ben peut-être que je vais revenir, ben ils vont encore me permettre de prendre une douche, de me laver, d'aller voir l'infirmière, de manger, de dormir. Puis entre ça, ben le travail se fait quand même. On fait quand même un travail avec les jeunes sur c'était quoi l'élément déclencheur, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci t'es parti, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, comment qu'on peut travailler ensemble. On tente de voir avec eux qu'est-ce qu'on peut offrir vraiment et comment eux peuvent se mobiliser puis essayer de voir si on peut pas trouver une entente ensemble pour pas qu'il y ait une récurrence de la fugue. On est moins dans la répression, mais plus dans une intervention où on comprend le sens, puis de former, développer d'autres expertises de travail, d'intervention pour soutenir les gens, parce que ça fait vivre plein d'émotions, la fugue, travailler en collaboration. Je pense que le but, c'est de, je le nomme, c'est le mot magique pour moi, c'est le filet de sécurité, mais ça prend un village pour élever un enfant. Si on peut tout le monde être ensemble, essayer de soutenir cet enfant-là, ben ça va aider.
Ce qui compose le filet de sécurité pour les jeunes qui fréquentent l'organisme, je pense que c'est plusieurs choses. À partir justement du moment où on propose aussi des choses à ces jeunes-là, puis que ça devient un milieu où les jeunes ont envie de venir faire, que ce soit jardiner avec les intervenants, que ce soit venir faire une cuisine collective, que ce soit venir préparer un souper pour manger avec les intervenants et intervenantes. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui fait que les jeunes ont envie de revenir jour après jour, de venir seulement jaser, de se sentir, en fait, accepté, de se sentir qu'on les prend où ils sont dans leur parcours, soit de fugue, mais soit de vie aussi. Il y a aussi toute la collaboration qu'on peut faire avec les différents organismes partenaires, que ce soit avec les centres jeunesse. On a quand même développé plusieurs choses en ce moment qui fait que on travaille étroitement avec les centres jeunesse, puisque ce sont les mêmes jeunes qui fréquentent En Marge, ceux qui fuguent de ces installations-là. Donc, de travailler en partenariat avec eux fait en sorte aussi que tout le monde travaille pour le mieux-être et le bien-être de ces jeunes-là. Ils savent aussi qu'on discute, qu'on se parle entre intervenants, donc que ce soit l'éducateur, que ce soit le travailleur social, que ce soit les intervenants d'En Marche, justement, tout ce beau monde-là sont capables de se jaser pour trouver les meilleures solutions pour ces jeunes-là.
De mon point de vue, autour d'un jeune en fugue, il y a quatre principaux acteurs qui vont jouer un rôle important, mais ça peut changer en fonction de où on est rendu dans la fugue et tout ça. Donc, premièrement, il y a les parents qui restent les premiers à vouloir prendre soin de leur enfant, à vouloir être là pour eux autres. Il y a souvent la DPJ aussi qui a un rôle à jouer à un moment ou à un autre. Il y a les organismes communautaires qui ont un mandat beaucoup plus avec beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de flexibilité, qui peuvent aussi accompagner ce jeune-là. Et il y a les services policiers aussi qui ont un mandat souvent un peu plus clair et direct d'assurer la sécurité du jeune, par exemple. Puis je pense que l'important, c'est de travailler en concertation entre tous ces acteurs-là, de comprendre nos mandats respectifs, puis de se parler. Puis du point de vue de chacun des acteurs, en fait, c'est d'apprendre un petit peu quand utiliser quelle organisation pour accompagner le jeune dans la fugue. Donc, c'est sûr que dans une situation, par exemple, on est vraiment très, très inquiet pour notre enfant. Les policiers, c'est les meilleurs pour aller chercher rapidement puis le ramener en sécurité. Par contre, si on a des contacts réguliers puis ça fait seulement quelques jours, bien là, peut-être que de faire un lien avec un organisme communautaire qui peut aussi prendre soin du jeune, le mettre en sécurité et tout ça, peut être une bonne première étape pour essayer de démêler un peu qu'est-ce qui a causé la fugue et trouver des solutions pérennes.
La Squad Fugue, c'est un mécanisme de concertation qui regroupe des organismes jeunesse qui se sont engagés à accompagner, offrir un accompagnement un peu plus personnalisé aux jeunes qui sont à risque de fugue ou d'itinérance. Donc, ce sont des organismes jeunesse qui ont décidé de travailler ensemble pour tisser un filet de sécurité sociale autour de ces jeunes-là, puis réduire les risques qu'on les perde, qu'on perde de vue, qu'on perde le contact avec eux. On s'est rendu compte au fil des années que les jeunes qui vivaient des situations de fugue ou qui cherchaient à quitter une situation quelconque ne connaissaient pas les ressources sur le territoire ou très peu. Donc, en travaillant comme ça, la collaboration, ben on a cherché à créer le filet de sécurité, c'est-à-dire que le jeune connaisse les lieux où il peut aller, où il peut être accueilli, puis où il peut aller chercher de l'aide.
Moi, je dirais qu'il faut créer des liens. Pour créer des liens, il faut que le jeune soit présent pour qu'on ait créé des liens. Je pense que c'est l'aspect numéro un c'est la relation thérapeutique. Bien beau, tous les approches, mais le lien qu'on crée avec les gens, comment on les accueille, la posture, ce lien-là est important, mais on peut pas créer des liens avec tous les jeunes. Il y a des jeunes qui ont trop de traumas, sont trop blessés et ont peur de créer les liens parce qu'ils savent peut-être aussi que éventuellement, ce lien-là va cesser parce qu'ils vont avoir 18 ans ou 19 ou 20, dépendamment dans quel service ils sont. C'est une réalité. Fait que c'est de créer des liens avec des jeunes, des fois, qui ont eu tellement de ruptures. Comment créer cette mobilisation-là chez un jeune pour dire, ben, regarde, reviens. Voici ce qui est possible de faire. Si tu as reparti, chose qu'on ne souhaite pas, mais si tu fais des choix, est-ce qu'on peut t'équiper, que ça soit en réseautage, pour que tu puisses prendre soin de toi, est-ce que tu prennes le moins de risques possible? Qu'est-ce que tu peux faire, toi, lors d'une fugue, même si on n'est pas d'accord, qu'on ne cautionne pas? Je pense que ça, c'est un réflexe qui est beaucoup plus présent chez les intervenants, et la plupart des gens le font. Il y a des vécus, des fois, tu te dis, mon Dieu Seigneur, comment amener ça? C'est le travail d'intervenant. Je côtoie des jeunes intervenants, ils ont tellement la flamme. Puis des fois, je leur dis, on commence avec le désir de vouloir sauver le monde. Puis tu réalises, après 34 ans, tu sauves pas personne, mais tu les accompagnes. Sauf qu'il faut que tu aies le désir de sauver le monde pour travailler là-dedans. Parce que tu vas le réaliser avec le temps que, OK, on le sauve pas, on l'accompagne, mais en quelque part, il reste toujours que, ah oui, j'ai apporté ça, j'ai donné ça, parce que c'est un don de soi. Faut croire que on sème des graines, on sème comme dans un champ, puis peut-être qu'on verra pas comment ça va pousser. Et je crois à ça, que peut-être que ça donnera pas de résultats sur le champ, mais que dans 3 ans, quand une situation va se passer, il va avoir un déclic. Donc, je pense qu'il faut jamais nous lâcher. Le temps que je vais être là, je vais t'accompagner tout le temps.
Retrouve-moi où l'on s'égare est un balado produit et réalisé dans le cadre du projet de refonte du site jeunesenfugue.ca par le collectif POM pour le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Consultez le site web pour le détail des ressources dédiées aux fugueurs et à leur entourage. Recherche, réalisation et montage, Sophie Mangado et Chloé Charbonnier. Musique et conception sonore, Blanche Bayargeon. Prise de son, conception sonore et mixage, Jérémy Roy. Narration, Julie Hamelin.